Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons en forêt. Comment protéger la biodiversité et la résilience de nos espaces boisés en Bretagne ? Avant d'en parler dans quelques instants avec Pierre Brossier, ingénieur forêt environnement au Centre régional de la propriété forestière Bretagne-Pays de la Loire, partons en forêt de Brocéliande avec une association, Sylvenco, qui prône la sylviculture douce et le regroupement forestier. C'est un sujet de Loïc Lehir de Timbre FM, votre radio associative à Augan et dans sa région.
Et donc aujourd'hui, François va nous emmener sur les terres du groupement forestier...
Du bois du tombeau.
Du bois du tombeau. Donc en gros, ça va être ce matin. Après, on casse la croûte tous ensemble. Et après, on fait une réunion où chacun pourra se présenter un peu plus et puis réfléchir aux activités de l'asso à venir. Quoi.
D'accord. D'accord.
Alors donc Sylvenco, donc c'est une association qui a une dizaine d'années, qui a été créée à l'initiative du pôle d'économie sociale et solidaire du pays de Puermel, essentiel Puermel. À la base, l'idée c'était de faire une AMAP bois-bûche en chantier participatif. Donc ça s'est fait quelques années et petit à petit l'association a évolué. Du coup, on est beaucoup sur l'éducation populaire autour de la sylviculture douce et des enjeux liés à la forêt. On fait partie du réseau des alternatives forestières. On est une des branches locales du réseau. Donc ça, c'est un réseau national qui essaye de fédérer les initiatives autour de la sylviculture douce et également de réfléchir à la filière globale du bois. Ça part de la forêt, ça finit par l'artisan, en fait, donc avec les scieries, les débardeurs, les bûcherons. Et on a dans l'idée, au sein de l'association, de créer un autre groupement qui serait plus sur un modèle citoyen, coopératif, une personne, une voix, ou à peu près, pour acquérir des forêts en collectif sur le secteur, pour les préserver de la sylviculture intensive qu'on va se développer de partout. François, tu peux nous présenter le groupe.
Alors, je fais un petit résumé parce que ça date maintenant depuis 40 ans. Et même je remonte un petit peu au-delà puisque l'histoire du groupement a été initiée par l'incendie important de 1976. Cette année-là, ça concernait 500 hectares. Les pompiers ont pu intervenir ici. Mais ça commençait du côté de Tréhaut-Renteux que dans les virages de Tréhaut-Renteux, par là. Donc ça a quand même brûlé 500 hectares sur trois communes. Les gens se sont un peu inquiétés et ont dit il faut faire quelque chose. Donc c'est pour ça que moi j'ai été chargé en tant que technicien de l'État, donc des Fonds forestiers nationaux, de faire un projet de boisement. Je suis arrivé sur un terrain qui était complètement détruit, quoi. Ouais, c'est une sélection naturelle. Comme vous voyez, là, ce chêne-là, chevelu, il est venu tout seul. Enfin, il est venu, c'est un semi-naturel. Il y a un propriétaire qui en avait fait planter, ou ses parents, j'en sais rien. Et donc, dans son château, qui est à 3 km à vol d'oiseau, et il en a des vieux. Et donc, on en trouve maintenant partout. D'accord. Dans tout le secteur du groupement forestier, on en trouve. Et il a la bonne idée de pousser dans des terrains très secs. Ouais. Donc, de faire des essais, c'est pas inutile. Quoi.
Alors, il n'est pas encore signalé comme, comme envahissant, mais il faut être vigilant. Parce que,
non, voilà.
Donc, effectivement, le truc, c'est qu'il n'y a pas une panacée, c'est-à-dire, c'est comme toujours, on ne va pas choisir une essence pour reboiser tout, parce que sinon, on va se retrouver dans la situation de l'eucalyptus ou, de, ou du robinier ailleurs.
Ou des épicéas de l'Est de la France.
De l'Est de la France, oui. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de penser à diversifier au maximum. Alors, comme on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur au niveau climat et qu'on va avoir une grosse période très mouvementée avec des saisons qui ne sont plus tout à fait les saisons classiques, il y a beaucoup d'essences qui vont souffrir. Ça, c'est le gros souci parce que justement, elles vont laisser des trous et ces trous, il faut qu'on puisse les compenser par soit des espèces qui sont différentes et qui vont s'adapter à ça, soit, comme tu le disais tout à l'heure, des variétés qui viennent de régions un peu différentes. Ouais. Sur le long terme, on verra ce qui se maintient et ce qui ne se maintient pas, quoi. On sait qu'on aura des pertes.
On nous a dit que les végétations devaient se déplacer de 400 km.
300, oui.
300
km. 300
km. Tout va remonter.
On dit, nous, que jusqu'à la fin 2100, on est à peu près à 800. On se retrouve avec la région PACA, par exemple, qui serait quasiment désertifiée. Hein.
Ben oui.
Un petit peu l'équivalent
ça serait comme l'Andalousie, peut-être.
Quoi. Oui, c'est ça, oui. Ben, du coup, il y a des essences ici qui risquent d'avoir des gros soucis, hein. Justement les chênes sessiles, mais aussi le hêtre, c'est un des premiers concernés. On ne sait pas trop. S'il pleut plus, ça peut aller.
Si on arrive aussi, moi je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte, c'est l'ambiance forestière.
Oui, l'ambiance, oui, tout à
fait. Et donc il y a quand même un effet tampon d'une grande forêt, ou peut-être aussi quelque chose qui n'a pas été suffisamment relevé, c'était l'existence ou non du bocage. Parce que ça a un effet qui freine les vents, donc qui freine la dessiccation, si on a un bocage dense. Et ça, malheureusement, on a souffert en Bretagne, hein, puisque, à part le Finistère, où il reste encore pas mal de bocages, dans le Côte d'Armor surtout, mais Finistère aussi, dans toute cette région morbihanaise où on est parti sur de l'agriculture céréalière, là, on a des étés de plus en plus difficiles, quoi. On va voir, si vous voulez, la lande là, dont je parlais.
Et dans ce réseau-là, on essaye, bon, évidemment, de prendre soin de la forêt, mais aussi de prendre soin des conditions de travail des différents acteurs. Parce que c'est bien de bien gérer sa forêt, mais s'il n'y a personne pour sortir les bois et pour utiliser des petits lots de bois, parce que voilà, du moment qu'on ne fait pas des coupes rases et qu'on fait de la sélection pied à pied, ben, on a des plus petits lots. Et c'est un des enjeux, c'est de savoir commercialiser ça et les utiliser et de mettre en lien... les forestiers, les artisans, enfin entre ceux qui ont du bois à vendre et ceux qui cherchent à en acheter. Actuellement, la filière est complètement déstructurée en France. Quoi. Et voilà, petit à petit, nous, on essaye de reconstruire ça. Nous, à notre niveau local, le RAF au niveau national. Voilà. Notre manière d'agir actuellement, cette année-là, depuis cet automne, c'est de faire un peu une sortie par mois, à peu près, sur différentes parcelles de gens du coin, de membres de l'association, pour s'auto-former, parce que dans l'association, bon, il y a des professionnels de la forêt, il y a des professionnels de différents maillons de la filière, mais il y a aussi des particuliers. On se forme au fur et à mesure à la gestion forestière. Les sorties, là, ça permet d'avoir un mode convivial pour apprendre à se connaître et se rencontrer. Là, aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui a une scie qui n'a même pas 5-6 km d'ici, qu'on ne connaissait pas, quoi, par exemple.
À l'instant, ce reportage sur cette action de l'association Sylvenco en forêt de Concoret, en pays de Brocéliande. Alors pour aller plus loin sur ces enjeux de biodiversité pour nos forêts en Bretagne, nous sommes en liaison aujourd'hui avec Pierre Brossier, ingénieur forêt environnement au CRPF, le Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne, pays de la Loire. Pierre Brossier, bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être tout d'abord nous présenter en quelques mots, nous expliquer ce qu'est le CRPF, le Centre Régional de la Propriété Forestière, et peut-être ses principales missions également.
Alors, le Centre régional de la propriété forestière de Bretagne-Pays de la Loire, en fait, c'est un établissement public à caractère administratif. L'État nous a confié des missions. On en a trois principalement. La première, en fait, c'est d'agréer les documents de gestion durable. Les propriétaires qui ont des forêts qui dépassent 20 hectares depuis juillet 2023 sont tenus, en fait, d'avoir un document où ils analysent leur forêt. Il faut qu'ils nous la décrivent. Qu'est-ce qu'ils ont comme arbre, qu'est-ce qu'ils ont comme peuplement forestier, et qui nous propose un programme des coupes et travaux sur une période qui peut s'étaler de 10 à 20 ans. Et donc, nous, l'établissement, on doit vérifier que ce programme, en fait, il est bien conforme au code forestier et à un document cadre régional qui s'appelle le schéma régional de gestion sylvicole. Donc ça, c'est une de nos grosses missions. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans les forêts. On doit montrer patte blanche. Il y a plusieurs façons de gérer les forêts, mais il faut être dans les clous.
Créer quelques obligations, enfin des obligations à partir du moment où on est propriétaire de plus de 20 hectares, c'est ça?
Oui, c'est ça. Après, on a une deuxième mission, alors il n'y a pas d'ordre, hein, mais on a une deuxième mission qui est de vulgariser en fait la gestion des forêts. Les propriétaires forestiers ne sont pas des professionnels. En Bretagne, il y a à peu près 360 000 hectares de forêts privées pour 120 000 propriétaires. Donc chacun en moyenne 3 hectares. Donc ce n'est pas du tout leur métier. Ils savent plus ou moins bien gérer. Et donc, l'idée, c'est de leur donner des bases, soit pour le faire eux-mêmes, s'ils s'en sentent capables, soit de s'attacher les services de personnes dont c'est le métier, mais de pouvoir discuter et dialoguer avec eux. Donc ça, c'est une de nos deuxièmes missions, vulgariser la gestion forestière. Et puis, on en a une autre également, qui est d'essayer de faire se regrouper les propriétaires. Parce que je vous ai dit, 120 000, c'est beaucoup. Oui. Donc, il y en a beaucoup qui ont des petites surfaces. Et donc, ce n'est pas évident pour eux d'accéder au marché. Sauf, comme on l'a vu dans le reportage, dont on parlera tout à l'heure, certains essaient d'innover, de faire des choses par eux-mêmes en circuit court, mais c'est compliqué. Et parfois, eh bien, il faut essayer de massifier un petit peu l'offre, de se regrouper à plusieurs. Et comme ça, on arrive à faire déplacer des bûcherons, des machines pour débarder les bois hors de la forêt ou pour négocier.
Réaliser des économies d'échelle, quoi, en gros.
C'est ça.
Grâce à ces regroupements forestiers. Pierre Brossier, comment justement réagissez-vous au reportage que l'on a entendu il y a quelques minutes sur cette action de l'association Sylvenco en forêt de Brocéliande?
C'est une initiative intéressante. Plus il y a de gens à s'intéresser aux forêts, mieux c'est. Hein, je vous ai dit, 120 000 propriétaires, ils sont nombreux. Nous, au CRPF, on est potentiellement une dizaine à aller sur le terrain pour les aider. Donc, on n'est pas nombreux. Donc, il faut démultiplier les forces sur le terrain. Et donc, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Et ce groupement forestier-là, en fait, issu d'un problème au départ, hein, c'est un incendie qui a ravagé tout ce secteur-là.
Oui.
François Roche et d'autres ont reconstitué la forêt, hein, ils ont fait des plantations, et maintenant on arrive à des stades où il faut commencer à aider les arbres. Alors soit on les laisse se débrouiller tout seuls, c'est un peu la guerre, ils s'entretuent, les plus gros, les plus forts, les plus vigoureux vont gagner la partie, soit on décide de les aider pour essayer de fabriquer du bois d'œuvre. L'objectif, hein, quand on est forestier, c'est quand même d'essayer à la fois de produire du bois, en prenant en compte aussi des aspects environnementaux et sociaux, mais on est là pour produire du bois, et si possible, du bois d'œuvre. Donc c'est des bois qui seront transformés et qui pourront stocker du carbone très longtemps, dans des charpentes, dans des huisseries, donc des encadrements de portes, de manière différente. Mais l'objectif, c'est quand même d'essayer de faire des jolis bois pour qu'ils aient une durée de vie longue et qu'après l'avoir séquestré, le carbone en forêt, qu'on le stocke longtemps dans des produits bois pour essayer d'apporter notre part aussi aux évolutions climatiques et à la captation du carbone.
Alors justement, vous parliez d'adaptation climatique, d'incendie aussi dans les forêts. Globalement, si on fait un état des lieux de nos forêts en Bretagne, est-ce qu'elles sont en bon état ou est-ce qu'elles sont aussi victimes notamment du réchauffement climatique? On a eu récemment l'épisode de la tempête du 2 novembre dans notre région, et puis l'année précédente, c'est les incendies qui ont frappé durement, notamment les forêts en Bretagne. Quel état des lieux on pourrait faire assez rapidement sur l'état de nos forêts en Bretagne?
Alors en Bretagne, on a une particularité, hein, c'est qu'on a peu de forêts. On a 14% seulement du territoire qui est couvert de forêts, là où en France, la moyenne est à 30-31%. Donc on en a peu, et en plus, on en a la moitié qui est très jeune, en fait. Elle a moins de 40-50 ans. C'est une forêt qui est issue de la déprise, en fait, agricole, des terres qui ont été abandonnées, les plus difficiles à valoriser, à mettre en culture. Et donc, elles se sont boisées, soit naturellement, hein, si on laisse faire la nature, il y a des espèces qui sont pionnières, qui ont des graines qui volent, qui viennent s'installer, donc des bouleaux, des saules, et ça colonise gentiment des prairies abandonnées, des fonds de vallées. Donc on a beaucoup de surfaces comme ça, de boulets, saulets, qui sont venus naturellement. Et puis on a aussi eu un petit peu de plantation après la guerre, là, il y a eu le Fonds forestier national qui a encouragé en fait à redresser la France, et donc il y a eu des boisements, des campagnes de boisements importantes. Et donc on a ce mix-là de forêts naturelles, on va dire, et de forêts plantées par la main de l'homme. Et donc c'est une forêt très jeune, donc elle capte beaucoup de carbone, celle-là, parce que les arbres, ils pompent énormément. Puis à côté, on a une forêt plus ancienne, mieux structurée, hein, mais ça c'est lié à la vieillesse. Hein. Il faut, les forêts en fait sont des milieux qui évoluent doucement, plus ça évolue, plus ça se complexifie, et plus les interactions sont importantes entre les arbres, les animaux qui vivent dedans, le milieu. Et donc, notre forêt bretonne, elle est comme ça. On a trois quarts de feuillus, un quart de résineux à peu près, des mélanges de futaies et de taillis, donc des arbres issus de graines et d'hôtes qui proviennent de la coupe d'arbres qui rejettent et qui font d'hôtes bruns. Hein, donc, on a ce mélange-là. On a un mixte de forêts, mais elle est essentiellement feuillue. Par contre, le marché, lui, notamment en Bretagne, est plutôt demandeur de résineux pour tout ce qui est emballage, alors que ce soit pour faire des caisses, des palettes, ou des cageots ou des bourriches pour transporter tout ce qui est légumes, primeurs, huîtres. Voilà.
Alors justement, par rapport aux caractéristiques de ces forêts bretonnes que vous venez donc de décrire, est-ce que l'état des lieux de ces forêts aujourd'hui, par rapport justement aux incidents climatiques, est-ce que vous diriez que ça devient problématique aujourd'hui ou pas ?
Alors, il y a des essences pour lesquelles on commence à avoir des petits signes avant-coureurs. Elles nous disent qu'elles commencent à souffrir. Alors, on est mieux lotis hein, que d'autres petits camarades en France. Hein, ouais. Si on va là dans la vallée du Rhône ou en Bourgogne, là, il y a des dépérissements massifs de forêts. On n'est pas encore arrivé là en Bretagne, mais il ne faut pas se tracasser. Vu ce qu'on nous prédit comme évolution climatique, on aura des problèmes à moyen terme. Et même déjà à court terme, on voit des essences comme le châtaignier notamment, qui commence à souffrir de la maladie de l'encre. Le chêne pédonculé sur des sols pas très profonds, avec une réserve en eau faible, lui aussi, il commence à décrocher. Donc on a des signes comme ça. On a eu un été 2022 très sec.
Oui.
Beaucoup de plantations qui n'ont pas bien réussi, même en Bretagne, alors que jusque-là, on était plutôt épargnés par ces problèmes-là. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui se passent. Et on a intérêt à anticiper dès maintenant les choses. Des perturbations, on a toujours eu hein, dans les forêts. Les tempêtes, on en a une grosse là, Sierra, mais en 87, c'était beaucoup plus important que ça. En 99, on avait été épargné en Bretagne, mais il y a d'autres endroits en France où il y avait eu beaucoup, beaucoup de casses. Des feux, c'est régulier, hein, François Roche l'a dit, 1976, ça a brûlé. À la fin des années 90, le Val sans retour dans le massif de Brocéliande, il a brûlé aussi. On a tendance à perdre un peu la mémoire, mais sur l'échelle de vie d'une forêt, des perturbations, il y en a quand même beaucoup. Alors, pour le moment, Météo France ne nous dit pas qu'il y a une intensification. Il y a des tempêtes, il y en a toujours eu.
Mais contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas d'accélération, selon vous, de ces phénomènes.
On a demandé à Météo France de nous faire des études. En fait, il faut regarder sur des pas de temps assez importants, hein, et des périodes trentenaires. Pour le moment, au niveau statistique, il n'y a rien de bien significatif. Voilà. Par contre, au niveau du climat, il y a quelque chose qui est sûr et certain, c'est qu'il y a du réchauffement. On a pris plus d'un degré, ça c'est net, et puis vu les modèles qu'on nous propose, hein, on sait que ça va continuer. Même si on devient très vertueux aujourd'hui, le système est enclenché et on n'y peut rien, la température va augmenter. Donc, qui dit augmentation des températures, dit augmentation des périodes de sécheresse, donc stress pour les arbres, Donc, vous avez des arbres qui arrivent à puiser de l'eau, d'autres qui ne savent pas trop la préserver et qui ont du mal à en retrouver dans le sol s'il n'est pas suffisamment profond. Et donc, on a des dépérissements qui arriveront, quoi. Ça, c'est sûr et certain. On a vu des choses, hein, l'été 2022, des phénomènes de décurtation. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais en fait, les arbres, ils évaporent beaucoup d'eau et ils savent que bah, ça va, c'est pas bon pour eux. Donc, ils s'auto-mutilent, on va dire. Ils perdent des rameaux pour éviter de transpirer et perdre trop d'eau, quoi. Donc, ça, c'est un moyen de défense. Mais il y a des fois, il faut carrément faire baisser sa tête, quoi. Donc, on fait mourir la tête de l'arbre et hop, on se recentre plus bas pour avoir moins d'efforts à faire pour faire monter la sève. Je pense que dans les dizaines d'années qui viendront, on aura sûrement des arbres plus petits. Ils vont s'adapter, en fait. Alors, est-ce qu'ils auront la capacité à s'adapter assez vite? Ça, on n'en est pas certain. Tout le monde nous dit que ça va trop vite pour qu'eux, ils aient la capacité à s'adapter, quoi.
Alors, justement, donc, voilà. Pierre Brossier, vous parliez tout à l'heure d'anticipation, d'adaptation. Quelles sont les réponses qu'on peut donner aujourd'hui et que vous donnez peut-être déjà pour essayer justement d'anticiper par rapport à ce réchauffement climatique, par rapport à ces incidents climatiques qui ne sont pas forcément encore si significatifs que ça en Bretagne, on l'a compris, mais comment fait-on pour anticiper justement une gestion forestière qui permet peut-être aux forêts de mieux résister, d'être plus résilientes à l'avenir?
Alors il faut déjà bien les analyser. Hein, on a des outils maintenant qui nous permettent d'étudier les sols en fonction de la profondeur, de la structure et de la texture des sols. On a des réserves en eau plus ou moins importantes. Et ça, c'est en fait une sorte de gourde de substitution. Donc, si vous avez beaucoup de réserves en eau dans le sol, même s'il y a des périodes sèches, il y aura des phénomènes de compensation. Pareil, le microclimat peut nous aider. Donc, on a des outils, on a développé des outils, hein, tous ensemble, la communauté forestière et les scientifiques, donc notamment un outil qui s'appelle BioClimSol, qui nous permet de savoir, dans les années qui viennent, est-ce que l'essence, par rapport au sol et au climat qu'on connaît, et au climat qu'on nous promet, est-ce qu'elle sera encore adaptée, quoi. Donc, ça nous permet déjà de dégrossir un peu les choses. Il y a un autre outil qui s'appelle ClimEssence, où on peut simuler, en fait, on peut savoir quel est le climat qu'il y aura en Bretagne en fonction des différents scénarios qu'on nous promet. Et donc, on peut aller voir dans des régions actuelles qui ont ce climat-là, quelles sont les essences qui sont adaptées. Donc, si nos essences forestières en place, on voit qu'elles sont capables de survivre dans les climats qu'on nous promet, eh bien, il faut continuer à les gérer le mieux possible. Donc peut-être en adaptant la sylviculture, hein, ça on en parlera, mais il y a différentes façons de gérer les forêts. Ça, c'est un moyen déjà d'anticiper les choses. Après, il y a des essences et des terroirs où on sait qu'ils ne seront plus adaptés. Donc là, eh ben, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir pour transformer la forêt, c'est-à-dire mettre d'autres essences forestières qui seront adaptées dans le climat futur? Donc là, il y a différentes manières de faire. On peut aller chercher des espèces ailleurs dans le monde, en Europe. Il y a des essais qui sont faits. On a aussi installé des arboretums. Il y a un projet européen qui s'appelle Rainforce, où on a installé les mêmes arboretums avec les mêmes espèces, du Portugal jusqu'à l'Écosse, je crois. Voilà. Et on regarde différentes espèces, quels sont leurs comportements dans les climats actuels et comment elles vont évoluer. On aura peut-être des espèces qui seront adaptées. Et le problème de la forêt, c'est qu'il faut du temps pour savoir qui va être adapté. Et puis le climat, il ne change pas d'un coup d'un seul. On a encore des gelées tardives, et donc des espèces méridionales, ben, elles ne supportent pas ces gels, quoi. Donc on peut les perdre. Donc soit on change d'essence, soit on peut aussi prendre les mêmes essences, mais aller chercher des variétés plus méridionales. On peut aller chercher des chênes dans le sud de la France, par exemple, puis les faire remonter artificiellement plus vite qu'ils ne le feraient naturellement, en espérant qu'ils soient mieux adaptés dans les climats futurs. Donc, il y a différentes façons de faire. Ce dont on sait, par contre, c'est qu'il va falloir complexifier un peu nos forêts, les mélanger, pour justement ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, et certaines essences qui auront du mal à supporter l'évolution climatique, d'autres, elles, réussiront à passer le cap. Donc, ce sera des systèmes plus complexes à gérer, mais à mon avis, c'est indispensable de mélanger, de diversifier nos forêts et de les rendre un peu plus complexes. On voit bien les forêts très simplifiées, hein, les plantations, par exemple, d'épicéas communs en plaine. En ce moment, c'est la catastrophe, quoi. Vous avez des scolytes qui viennent, Et donc, on perd tout. Elles sont dans l'incapacité de se défendre, ces forêts-là. Donc, il faut absolument qu'on les rende plus résilientes.
Donc, ça passe par réaliser, finalement, des tests in situ sur dans les forêts, en essayant différentes espèces qui pourraient peut-être, à l'avenir, mieux s'adapter. C'est bien ça, quoi.
Il y a ça. Ouais. Et puis, il y a aussi des changements de façon de gérer les forêts. On peut peut-être les gérer... En gros, il y a deux méthodes pour gérer les forêts. Hein. Soit on les gère sur des surfaces. Donc, sur une surface, on a des arbres qui ont... grosso modo le même âge à 10-20 ans près, et puis on gère des surfaces. Et à un moment donné, quand ils sont mûrs au bout du cycle, eh ben on coupe tout le monde, soit de manière progressive, soit de manière directe, et on recommence une fournée, on va dire. Soit on peut les gérer pied à pied, c'est-à-dire sur une même surface. On a des petits, des moyens, des grands, des vieux. Et là, bah, c'est beaucoup plus difficile à gérer parce que, en fonction des comportements des essences, vous avez des essences de lumière qui ont besoin de plus de lumière que d'autres, des essences d'ombre qui peuvent vivre en dessous, des quantités de lumière à apporter au sol pour qu'ils puissent se développer. Donc, c'est des systèmes beaucoup plus complexes, mais qui ont fait leur preuve hein, en France et ailleurs en Europe. Mais bon, ça demande plus de finesse, de doigté dans la gestion. C'est plus complexe, mais peut-être que c'est des solutions vers lesquelles il va falloir. Sérieusement se pencher. Quoi.
Pierre Brossier, on passerait des heures à vous écouter, tellement effectivement c'est intéressant d'aller creuser ce qui se passe en forêt et notamment en Bretagne. Malheureusement, notre temps est compté, mais pour que nos auditeurs et auditrices puissent aller plus loin sur ces questions suite à notre entretien, quels sont peut-être les sites, ouvrages, documents de référence que vous pourriez nous conseiller ?
Alors déjà, vous pouvez aller sur le site... du CRPF Bretagne Pays de la Loire, hein, site internet. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la forêt bretonne, sur les essences forestières. Après, ce que je vous conseille d'aller voir, c'est le guide des milieux d'intérêt patrimoniaux de la forêt bretonne. Là, vous allez avoir un petit guide richement illustré avec tous les habitats forestiers et les habitats associés à la forêt, ainsi que les espèces, et quelques préconisations de gestion pour les prendre en compte. On a aussi, il y a une dizaine d'années, rédigé un guide sur les plantes indicatrices des milieux forestiers bretons. Donc ça, c'est pour les botanistes. Je dirais les botanistes en herbe. Vous avez des photos et ça, vous allez pouvoir identifier certaines plantes forestières qui vous diront dans quel type de station vous êtes. Ça peut aussi être intéressant. Puis après, avec nos collègues de l'Institut pour le développement forestier, on a réalisé toute une... série en fait de brochures très illustrées hein, parce que l'objectif c'est quand même de donner envie et de former les propriétaires. Donc il y en a une, c'est le champignon, l'allié de la forêt et du bois. Il y en a une autre sur les oiseaux forestiers. On en a fait une, la dernière qui est sortie, c'est celle sur la gestion forestière et les chauves-souris. Et ceux qui sont un peu plus pointus, ils peuvent aussi consulter celle qui concerne les mousses, les fougères et les lichens. Et puis la dernière concerne les insectes pollinisateurs. Voilà, donc ça, c'est des brochures intéressantes pour prendre en compte la biodiversité et toutes les espèces dont j'ai parlé qui étaient intéressantes pour nous aider dans la gestion des forêts.
Eh bien, Pierre Brossier, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes donc ingénieur forêt-environnement au CRPF, le Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne-Pays de la Loire. Le site internet du CNPF, l'entité nationale, www.cnpf.fr. Retrouvez toutes nos émissions en diffusion sur vos radios associatives locales en Bretagne, sur Radio Boa, leur émanation régionale sur les nouvelles fréquences hertziennes du DAB+, et en podcast sur le site de la Corlab, www.corlab.org. À bientôt donc pour un nouveau numéro de notre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. Et d'ici là, eh bien comme vous l'entendez généralement à la fin de cette émission, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.